gens quasi impossibilité d'exporter les produits, soit les produits manufacturés, soit les produits agricoles de Cisjordanie ou de Gaza. Gaza, c'est absolument impossible. Le contrôle des points de passage est tel qu'il est impossible d'exporter quoi que ce soit. Alors, on nous a fait savoir, les services d'information du gouvernement israélien ont fait savoir il y a quelque temps que non, c'était pas vrai, regardez, ils prennent, arrivent quand même dans l'endroit. Et ça, c'était un petit exemple, quelques centaines de kilos de fraises avaient pu passer, et on s'est emparé de cet exemple pour dire, vous voyez, le commerce est possible, alors que c'est un exemple très ponctuel et surtout très limité dans le temps. Ça a eu lieu une fois et c'est tout. Mais c'est prévu dans un outil. Alors, la vie économique rendue très difficile, la production agricole, elle peut évidemment circuler pour la population palestinienne, mais très difficile de l'exporter, exporter les produits, les fruits, les légumes, tous les produits de l'olive, de l'huile d'olive par exemple. Et puis sur le plan économique aussi, le fait que les meilleures terres, les terres les plus productives, sont annexées, sont confisquées par les colonies israéliennes. Et l'exemple le plus frappant, c'est quand même celui de la vallée du Jourdain. J'y étais il y a 2 ans, et c'est quand même incroyable de voir que 93% du territoire de la vallée du Jourdain est annexé par des colonies israéliennes, et 98% des ressources en eau sont contrôlées par les Israéliens. Donc vous voyez, ce qui reste, il reste à peu près 50 000 paysans palestiniens qui, coûte que coûte, ont voulu rester dans cette vallée, mais vous imaginez dans quelles conditions ils sont obligés de vivre, avec un espace très réduit pour cultiver, très peu de ressources en eau, et des difficultés sans nombre, ne serait-ce que pour construire de nouveaux bâtiments, des hangars, une ferme, tout est gelé, il est strictement interdit de construire quoi que ce soit. Donc évidemment, cette situation nous semble désespérante, ça s'ajoute à l'humiliation constante qui est faite aux Palestiniens pour ces contrôles, pour obtenir des autorisations, pour passer d'une zone à une autre. Donc c'est une situation absolument insupportable, et dans ces conditions, on ne voit pas en effet un État palestinien. On ne voit pas la paix. Depuis Oslo, 93, et depuis mise en œuvre en 95, enfin jusqu'en 95, il y avait un espoir réel de voir une solution politique apportée à ce problème, la naissance future d'un État palestinien. Et puis vous savez, le Premier ministre Yitzhak Rabin, qui était un des principaux artisans de cet espoir, a été assassiné. Donc, c'en a été fini des dispositifs d'Oslo. Petit à petit, le clignotage a continué et même s'est intensifié. Les seuls moments où il y a eu un véritable espoir, ça a été la négociation de Tabac, mais qui a échoué au dernier moment. Et là encore, il y a beaucoup de polémiques sur qui est responsable de cet échec. Et puis, il y a eu un moment où on espérait. On a eu un espoir nouveau, c'est en 2002, quand la Ligue des pays arabes a proposé un plan de paix à l'État d'Israël sur le thème échange de la paix contre les territoires, c'est-à-dire vous rendez les territoires qui ont été illégalement annexés, vous définissez les frontières à peu près conformément à la Ligue de 1967, et on se met d'accord sur tout le reste. Alors, on a cru que ça, c'était une proposition extrêmement solide, soutenue par l'ensemble des pays arabes. On a cru à ce moment-là que l'État d'Israël saisirait cette occasion. Et malheureusement, non, il n'a jamais répondu à cette proposition. Alors, est-ce qu'il y a une raison d'espérer un déblocage de cette situation, un arrêt des colonisations, une fluidité dans les communications, dans les transports, etc. Est-ce, finalement, on ne voit pas l'État d'Israël assouplir ses positions, et pour ce type, peut-être sera dépend beaucoup de l'aide internationale, en particulier de l'aide des États-Unis sur le plan militaire notamment, de l'aide européenne sur le plan économique, sur des tas de domaines comme l'éducation, la santé, etc. Et donc, ces puissances que les États-Unis et les puissances européennes pourraient peser davantage, pourraient un peu contraindre Israël à être plus raisonnable et à négocier. Mais on l'a bien vu avec la perte des colonies, Obama a exigé qu'un chef des colonies soit mis en place et qu'il soit mis en place pour la durée, et il n'a pas du tout été respecté par l'État d'Israël. Alors même les États-Unis, qui sont pourtant le principal bailleur de l'État d'Israël, n'obtiennent rien de l'État d'Israël. Alors, pourtant, on sait très bien que, et là mes camarades ont développé aussi ça, on sait très bien que des solutions existent. Et ces solutions, elles sont principalement contenues dans différentes résolutions votées par les Nations Unies, soit par le Conseil de sécurité, soit par l'Assemblée plénière. C'est la résolution 242, c'est la résolution 194, qu'on peut en reparler. Mais sur le papier, sur le plan des règlements, les possibilités existent. Alors pourquoi on en est toujours à cette situation de blocage? Et pourquoi les puissances occidentales, l'Europe, les États-Unis, n'obtiennent rien d'Israël? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se poser la question, puisque ces puissances n'obtiennent rien, peut-être est-ce à nous, la société civile, nous, les forces vives des sociétés d'Europe ou des États-Unis, d'agir et d'essayer d'exercer une pression que ces gouvernements n'arrivent pas à exercer. Alors ce sera peut-être la deuxième partie du débat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des initiatives possibles? On en reparlera. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir à ce petit point d'exposition et je vais donner la parole à mes camarades pour compléter cette analyse et leur donner l'occasion de se présenter, de présenter l'organisation qui les représente ici, et puis d'apporter les précisions nécessaires, celles que je n'ai pas fournies maintenant. Alors pour commencer, je vais donner la parole à Kevin Holt-Rastega, président du collectif judéo-arabe citoyen pour la paix. Merci, c'est à toi.
Bonjour à tous. Adam, on
entendra?
Non,
on n'entendra
pas.
Très bien.
Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Alors, disons que je vous parlerai de notre collectif un peu plus tard. Je voulais commencer par une bonne nouvelle que vous ne connaissez sans doute pas. C'est que l'ONU, qui est complètement débordée actuellement par la multiplication des conflits un peu partout dans le monde, et qu'on appelle à l'aide aussi un peu partout, ne sait plus où donner de la tête, et a donc décidé de prendre les moyens pour faire enfin appliquer les principales résolutions qu'elle a votées concernant Israël-Palestine. Bon, alors bien sûr, c'est une petite blague que je vous fais malheureusement, hein, mais j'aurais bien aimé pouvoir vous faire cette déclaration de façon tout à fait officielle. C'est le premier avril, c'était hier, mais bon, un peu d'humour est toujours utile, surtout dans une situation si difficile. Donc je vais commencer quand même par vous parler de ces principales résolutions, parce que ce sont des résolutions sur lesquelles nous bâtissons notre combat. Nous voulons en fait faire respecter le droit international et le droit et la possibilité pour cette région d'avoir une paix juste et durable. Donc la première grande résolution date du 11 décembre 1948, 1994, et l'Assemblée générale des Nations Unies décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer, et pour tout bien perdu ou endommagé, lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables. Il faut rappeler que cette résolution a suivi la Nakba en 1948, où 800 000 Palestiniens ont été obligés de fuir, de quitter leur foyer et d'aller se réfugier là où ils pouvaient. Certains sont revenus un peu plus tard, mais il y en a encore toujours énormément dans différents pays dans le monde. Alors, cette résolution, bien sûr, n'a pas été appliquée, bien au contraire, puisque depuis la situation a bien empiré, comme on a parlé à l'instant. Et il faut rajouter aussi que ce dont on ne se rend pas compte souvent non plus, c'est que depuis le début d'occupation de la Palestine, 650 000 Palestiniens ont été arrêtés. Ils ne sont pas tous en prison, ils ne sont pas tous restés en prison, mais il y en a encore plus de 60 000 qui le font. Et ils ont passé quand même un temps assez long pour beaucoup d'entre eux dans des prisons ou des camps militaires. Ah, vous n'entendez pas. Alors ensuite, la résolution 240, c'est très important, que l'accomplissement des principes de la charte, de l'ONU, exige l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient, qui devrait comprendre l'application des deux principes suivants. Écoutez bien. Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit. Cessation de toute assertion de belligérance ou de tout état de belligérance et respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région, et leur droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues à l'abri de menaces ou d'actes de force. Et à ce sujet, il faut rappeler que c'est depuis 1967 que la colonisation s'est développée de façon exponentielle, et vous voyez les cartes sur le mur à votre droite, qui montre en gros l'émiettement dont a parlé Alain tout à l'heure. Donc, en plus, je voudrais quand même signaler qu'il y a des forces en Israël même qui se dressent contre cette situation. Et je peux parler par exemple de l'ICAD, qui est un organisme dont on peut vraiment être fier et qui travaille depuis des années et des années pour reconstruire des maisons palestiniennes détruites. Et souvent, ces maisons sont détruites plusieurs fois. Ils reviennent, ce sont des juifs israéliens et aussi des palestiniens, ils reviennent pour recommencer à construire ces maisons. Ensuite, troisième grande résolution, c'est l'illégalité des colonies israéliennes en Palestine. Le Conseil de sécurité considère que la politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 n'ont aucune validité en droit. Ils font gravement obstacle à l'instauration d'une paix générale juste et durable au Moyen-Orient. Bon, c'est très violent d'entendre ça quand on connaît la situation, l'occupation de Jérusalem Est, exponentielle également. Et, bon, l'eau hein, que les Palestiniens doivent acheter, l'eau qui leur appartient et qu'ils doivent acheter à prix fort aux Israéliens, par exemple. C'est le 22 mars 1979, c'est la résolution 446. Ensuite, il y en a encore deux que je citerai, trois plutôt. Le droit à l'autodétermination des Palestiniens. L'Assemblée générale réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien en Palestine, y compris le droit à l'autodétermination sans ingérence extérieure, le droit à l'indépendance et à la souveraineté nationale. L'Assemblée générale réaffirme également le droit inaliénable des Palestiniens de retourner dans leur foyer et vers leurs biens, d'où ils ont été déplacés et déracinés, et demande leur retour. Reconnaît que le peuple palestinien est une partie principale pour l'établissement d'une paix juste et durable au Moyen-Orient. Fait appel à tous les États et organisations internationales pour qu'ils aident le peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits, conformément à la charte. C'est la résolution 3226 du 22 novembre 1974. Ensuite, la reconnaissance de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur les conséquences juridiques de l'édification du mur. Le mur avait été déclaré illégal déjà par la Cour internationale de justice européenne. Et les Nations Unies ont dit qu'elles étaient d'accord avec cet avis. Donc l'Assemblée générale prend acte de l'avis consultatif donné par la Cour internationale de justice le 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans les territoires palestiniens occupés, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. Exige qu'Israël, puissance occupante, s'acquitte de ses obligations juridiques telles qu'elles sont énoncées dans l'avis consultatif. Demande à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies de s'acquitter de leurs obligations juridiques telles qu'elles ont été énoncées dans l'avis consultatif. Et depuis, la situation encore n'a fait qu'empirer, puisque le mur a continué à être édifié, les colonies à être construites, une politique d'apartheid très violente s'est abattue sur les Palestiniens et même sur les Israéliens, puisque aujourd'hui, les Israéliens n'ont plus le droit de critiquer la politique israélienne. Ils risquent la prison, les amendes, etc. Il y a eu l'intervention à Gaza également. Vous savez qu'elle a fait 1500 morts, hein, sans parler de tous les blessés qui sont décédés ou qui ont eu leur vie complètement anéantie. Le peuple de Gaza, le peuple palestinien de Gaza continue de vivre dans une situation absolument intolérable par le droit humanitaire et le droit international. Et là aussi, le rapport Goldstone, qui avait été envoyé pour faire l'état de la situation après l'intervention israélienne à Gaza, a dit la chose suivante, notamment. La mission est arrivée à la conclusion que des actes assimilables à des crimes de guerre et peut-être par certains aspects à des crimes contre l'humanité ont été commis par les forces israéliennes de défense. Et depuis, qu'a fait les organisations internationales, qu'a fait le monde, Israël est entré à l'organisation l'OCDE, l'Organisation économique de l'Europe, et donc c'est complètement en contradiction avec toutes ces résolutions et tout ce droit sur lequel notre monde est quand même fondé. Notre monde se fonde depuis des dizaines d'années, et en particulier depuis la Shoah et les crimes commis contre les Juifs en Allemagne et dans les autres pays. ceux qui, dont les Palestiniens n'ont jamais été partie prenante et dont ils payent aujourd'hui, malheureusement, le prix. Alors, je ne vous ai pas parlé beaucoup de notre collectif, je voulais juste dire, on en parlera dans une deuxième partie, pour dire ce qu'on peut faire, effectivement, qu'il y a quand même un espoir, qu'il y a des forces qui s'élèvent un peu partout dans le monde pour dire non, l'occupation ça suffit, l'apartheid ça suffit, on n'en veut plus, on veut le droit et la justice qu'il règne enfin. Et je voulais simplement vous dire que notre collectif a été créé en mai 2002 et que nous travaillons dur dans toute la région, enfin en particulier à Strasbourg. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez voir de 5h à 6h un rassemblement des femmes en noir devant la FNAC à Strasbourg. Ces rassemblements ont lieu aussi depuis 2005, tous les 15 jours au centre ville, devant la FNAC, à Strasbourg. Et les femmes en noir, justement, ça c'est encore un élément de peut-être qu'on pouvait rajouter au droit, parce que ce sont des femmes qui se sont élevées d'abord contre, c'était en Amérique latine, excusez-moi, j'ai un trou. C'était les femmes de la place de mai, les femmes de la place de mai en Argentine qui s'élevaient contre l'arrestation et l'assassinat de leur mari, leurs enfants, leurs frères, etc., qui étaient jetés des avions dans la mer, etc., qui étaient torturés. Et ces femmes, justement, après beaucoup d'années, ont obtenu un début de réparation et des procès ont encore en cours en Argentine contre les pensionnaires. Donc il y a des espoirs, nous devons continuer notre action. Après l'Argentine, des groupements de femmes en noir ont été créés dans d'autres pays, en particulier en Afrique du Sud contre l'apartheid, et à partir de 1968 en Israël, où des femmes israéliennes se rassemblent toujours. Contre l'occupation des territoires palestiniens. Voilà. Donc je vous parlerai tout à l'heure des actions que nous entreprenons et que nous vous proposons.
Merci Karine. Je donne la parole tout de suite.